Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
RMC 01 TV, François Sorel, de quoi je me mail.
Et bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la fois le dimanche matin sur RMC et sur 01 TV, en vidéo, sur 01nettv.com, sur la chaîne YouTube de 01 TV pour De quoi je me mail, le dernier De quoi je me mail de la saison. On va s'accorder quelques semaines de vacances pour revenir tout bronzé et tout beau, toute fin août, avec pour ce dernier donc De quoi je me mail avant les vacances, tout à l'heure, un sujet sur la santé connectée. J'aurai le plaisir de recevoir le PDG de WeSings. Mathieu Letombe sera mon invité. WeSings, qui est une pépite hein, de la santé connectée française. On découvrira ce que fait WeSings et où va WeSings avec de nouveaux appareils incroyables qui notamment sont là pour détecter entre autres l'apnée du sommeil. C'est assez intéressant, on en parlera tout à l'heure. Je vous rappelle que vous pouvez bien sûr nous suivre sur la page Facebook de quoi je le mec et vous abonner à la page et puis réagir avec le hashtag DQJMM bien sûr sur Twitter. Merci d'être là et puis surtout bonnes vacances si vous avez la chance d'y être déjà. Et pour débuter, ce De quoi je me mêle, c'est le club de la presse IT. Jean-Sébastien Zanqui est là. Bonjour Jean-Sébastien.
Bonjour François, bonjour à tous.
Pas encore en vacances, hein, Jean-Sébastien, il tient bon.
Oui, jusqu'au bout.
Et Emmanuel Paquette aussi.
Oui, bonjour.
On est ravi d'accueillir pour cette dernière avant les vacances. Emmanuel Paquette, journaliste à l'Express. L'actualité de la semaine avec pas mal de news Apple. Et puis, vous le savez, ces rumeurs perpétuelles concernant les futurs iPhone. Hein. C'est comme ça depuis la nuit des temps.
Toujours.
Et là, on en sait déjà un peu plus sur non pas l'iPhone qui sortira en septembre, dont on sait à peu près tout déjà. Mm-hmm. C'est ça qui est fort. Mais sur ceux qui sortiront en 2021,
oui,
Jean-Sébastien.
Exactement. Alors effectivement, ça rejoint un petit peu les iPhones de septembre puisque ça concerne le zoom périscopique qui est voilà, ce système qu'on retrouve par exemple dans les téléphones Huawei ou Oppo qui permet un zoom optique x5 ou x10 dans un téléphone sans qu'il y ait d'objectif qui sorte puisque le zoom est vraiment mis à la verticale à l'intérieur de l'appareil.
Et ça permet d'avoir une meilleure qualité de zoom. En fait.
Voilà.
C'est plus un zoom numérique comme
exactement.
On a aujourd'hui sur les téléphones.
C'est ça. Et donc on espérait de voir ce système arriver dans les prochains iPhones à partir de cette rentrée 2020. Mais malheureusement, ce n'est pas l'avis de l'analyste du célèbre hein, Ming-Chi Kuo, cet analyste qui connaît tous les rouages des fournisseurs d'Apple, qui lui a raconté cette semaine qu'il y avait deux sociétés qui pouvaient fournir ce zoom. C'est Semco, qui est une société coréenne, et Sony Optical, qui est une société chinoise. Et pour l'instant, ces fournisseurs ne donneraient ce zoom périscopique qu'à partir de l'année prochaine à Apple. Donc ouais. Ce serait donc les prochains iPhone de 2021 voire 2022, parce que c'est pas dit que ce soit encore dans ceux de 2021, qui auraient ce système de zoom qui est quand même ultra bluffant hein, quand on utilise les P40 par exemple ou le Oppo Find X. Voilà, c'est génial à utiliser, on a presque un zoom comme un vrai appareil photo compact, donc c'est un grand pas
pour
l'utilisateur.
Tous les journalistes de Paris ont zoomé sur la Tour Eiffel
oui.
hein, avec le zoom périscopique.
La démo ultime.
Et ce zoom périscopique qui existe donc, tu le disais, alors depuis le P30 Pro hein,
oui.
sur chez Huawei.
Tout à fait.
Donc ça fait un an et demi que
voilà.
c'est disponible.
Donc ça, on va se retrouver avec des iPhones qui auront du retard de 2 ans, voire 3 ans sur certains téléphones Android. Ça arrive souvent, mais quand même, ça fait beaucoup de retard.
Bon, le zoom périscopique, Emmanuel, ça te fait rêver sur ton prochain iPhone ou pas ?
Alors, moi, pas nécessairement, mais c'est vrai que ça rentre dans la stratégie d'Apple, tu sais, qui veut développer la réalité augmentée. C'est la nouvelle, avec notamment des lunettes connectées, qui devraient arriver l'année prochaine, puisqu'il commence aussi à avoir les premières rumeurs de lunettes connectées du côté d'Apple. Au moment où Google, eux, ont aussi fait des acquisitions pour essayer de relancer ce type de produit, puisque pour l'instant, ça n'a pas été des grands succès. Hein, donc, mais bon, peut-être que Apple va relancer cette mode. Donc effectivement, avoir un zoom optique, ça peut permettre de développer tout ce pan de stratégie d'Apple qui doit arriver dans les années futures et qui doit pousser les nouveaux iPads, les nouveaux iPhones avec des applications nouvelles, notamment pour les développeurs qui vont pouvoir utiliser de nouvelles fonctionnalités autour de la vidéo et de la photo. Donc on voit que c'est la prochaine étape. Effectivement, comme le dit Jean-Sébastien, aujourd'hui, Apple est plutôt suiveur parce qu'on voit même qu'ils n'ont pas de terminaux 5G. Les fournisseurs chinois, Huawei notamment, ont déjà des téléphones 5G.
Samsung aussi, d'ailleurs.
Ils n'ont pas de pliables. Samsung a déjà des écrans. Alors pardon, on dit pliant chez vous, pardon.
Oui, pardon, pardon, pliant.
Pliant. Tout à fait. Apple n'en a pas, et effectivement,
donc, Zoom dans le
petit cochon. Ouais. Et pareil pour l'optique. Donc effectivement, Apple est plutôt à la traîne sur pas mal de choses importantes aujourd'hui. Alors c'est pas nécessairement un problème pour eux parce qu'ils rattrapent toujours le coup et ils apportent des fonctionnalités un peu nouvelles autour de ce type de technologie là. Donc à voir pour l'année 2021.
Voilà le zoom type périscopique qui permet du x5 x10, maman. C'est ce que
oui, tout à fait. Tout à l'heure, et puis qui est combiné avec du zoom numérique qui arrive parfois à du x50.
Ouais, c'est assez impressionnant. Très bien, ouais. On reste du côté de chez Apple qui se penche sur son App Store et le compare en fait à ses concurrents.
Oui, l'App Store d'après Apple donc ne taxe pas plus les développeurs que les autres boutiques d'applications. En fait, c'est la conclusion d'une étude indépendante qui a été néanmoins quand même commandée par Apple du cabinet
mince, je me souviens plus.
Ça y est,
qui est français, vous l'avez remarqué parce qu'avec un nom comme ça, enfin, c'est pas grave.
Oui, oui,
c'est un cabinet, on va dire.
C'est, voilà, c'est
des gens qui sont payés pour réfléchir.
Exactement, et analyser les marchés.
C'est ça.
Et donc, ça montre que le Play Store donc, de Google, l'App Store d'Amazon, le Microsoft Store prennent exactement la même commission de 30% qu'Apple. Ça pointe du doigt aussi même certains opérateurs télécoms qui, eux, prennent des commissions jusqu'à 50% dans la boutique. Ça montre d'ailleurs que leur boutique ne fonctionne pas toujours bien, on se demande pourquoi. Cette étude, en fait, elle tombe forcément au bon moment pour Apple, puisque Apple est soumis à deux enquêtes pour monopole, une aux États-Unis, une en Europe, mais quand même, ce qu'oublie de dire Apple dans cette histoire, c'est que le seul accès possible aux applications sur iOS, c'est l'App Store, contrairement aux autres boutiques, puisque le Microsoft Store, c'est pas le seul qui existe sur PC, le Play Store, c'est pas le seul qui existe sur Android. La seule possibilité sur iOS d'avoir un accès à un store alternatif, c'est d'utiliser un jailbreak et d'accéder par exemple à Cydia, qui est un App Store alternatif.
Oui, et donc déplomber en quelque sorte l'iPhone.
Exactement, ce qui est compliqué à faire.
Et non sans risque en plus.
Exactement. Donc voilà, ça montre un petit peu comment Apple essaye de faire du lobbying justement autour de cette histoire pour montrer que ce n'est pas les grands méchants mais qu'ils sont dans les clous de la concurrence.
Oui, donc en fait, ils adaptent un petit peu le discours à ce qui les arrange, non ?
Oui, alors ce qui est marrant, c'est ce que dit Jean-Sébastien, c'est que la tension est en train de monter sur Apple, sur ce qu'on appelle le côté gatekeeper, c'est-à-dire le gardien un petit peu de passeur d'application qui va être téléchargé sur les iPhones. Et ce qui est reproché par la Commission européenne qui vient d'ouvrir une enquête, c'est quand même deux points sur lesquels l'étude dont parlait Jean-Sébastien ne répond pas. La première, c'est de dire que Apple n'informe pas les consommateurs qui peuvent télécharger les applications d'autres, par d'autres moyens et bypasser en fait l'application l'App Store. Donc ça, c'est un défaut d'information vis-à-vis du consommateur pour qu'il ait le choix du téléchargement d'une application. Puis le deuxième élément, c'est le fait que ceux qui ont saisi aujourd'hui la Commission européenne pour abus de position dominante, c'est d'un côté Spotify, et d'un côté Kobo Rakuten, donc pour les livres électroniques, deux services qui sont proposés par Apple. C'est Apple Music d'un côté, et puis l'Apple Bookstore pour télécharger des livres. Et ce que dit la commission, c'est est-ce que Apple ne favorise pas ses propres services, donc dans la musique ou le livre, par rapport aux concurrents, via son store et via le fait de pousser dans son store ses applications à lui. Et puis, en plus, il se rétrocède ses propres commissions, puisque du coup, ça part d'une poche gauche pour aller dans la poche droite. Donc, c'est vrai que ça induit un avantage concurrentiel, a priori, sur tous les services Apple. Ce qui n'est pas le cas des autres boutiques, puisque dans les autres boutiques, alors, il peut se trouver que l'éditeur de la boutique soit aussi concurrent de certaines autres applications, mais pas autant qu'Apple. Donc, on voit bien qu'ils répondent que partiellement aux éléments qui leur sont reprochés aujourd'hui. Puis, dernier point, ce qui est marrant, c'est récemment Brad Smith, donc c'est le directeur des affaires juridiques de Microsoft, qui a dit... Quand même, Washington, vous devriez vous pencher sur Apple parce que sa boutique, ça commence vraiment à poser problème. C'est-à-dire que Microsoft, qui était lui-même sous coup d'enquête au début des années 2000, est en train de braquer le projecteur
sur
Apple et Google, parce qu'ils disent que c'est les stores aussi, les deux stores, qu'il faudrait ouvrir des enquêtes dessus. Alors, ils nomment pas Apple, ils nomment pas Android, mais bon, on comprend bien.
On comprend bien, il y en a 36.
Donc voilà, les coups bas commencent à voler dans la Silicon Valley.
On se rend compte aussi que pour Apple, finalement, si Apple réagit, c'est qu'ils prennent ce sujet au sérieux.
Oui.
Parce que souvent, Apple ne réagit pas. Malgré tout, ils ont une réponse.
Exactement.
Ils ont une communication. Ça veut dire quand même. Voilà,
oui,
c'est rare.
Tout à fait. Ils n'ignorent pas le problème.
Ils prennent ce sujet un petit peu au sérieux.
Que ça n'existe pas.
On va maintenant évoquer Nvidia. oui. Jean-Sébastien Zanchi. Alors Nvidia, pour tous les gamers connaissent, hein, bien entendu. Et Nvidia pourrait faire une acquisition, en tout cas souhaiterait acheter le géant ARM.
Ouais, tout à fait. Nvidia qui est sur les rangs pour acheter donc ARM, cette entreprise britannique qui conçoit en fait l'architecture, hein, de tous les processeurs un peu modernes, on va dire, des smartphones, des tablettes et même bientôt dans les Mac, puisque Apple a annoncé qu'il passerait à l'architecture ARM d'ici la fin de l'année, début de l'année prochaine. En fait, cette société a licencié ses technologies à d'autres marques qui les utilisent pour leurs propres processeurs. Donc on a parlé d'Apple, mais il y a aussi Huawei, Samsung et bien d'autres. Et donc c'est une entreprise assez florissante, hein, en ce moment, puisque c'est une architecture qui est vraiment en vogue dans le milieu des nouvelles technologies. Et c'est le propriétaire SoftBank, qui est l'opérateur japonais qui possède ARM, qui aimerait en fait en profiter pour revendre cette entreprise, pour se renflouer un petit peu, sachant qu'il avait acheté cette entreprise 32 milliards de dollars déjà à l'époque. Donc on imagine qu'aujourd'hui elle en vaut beaucoup plus. Et en fait, d'après les informations de Bloomberg, SoftBank aurait contacté Samsung, aurait contacté Apple pour leur proposer le deal, mais les deux marques ont refusé, notamment du côté d'Apple. Ça aurait un sens effectivement, parce qu'Apple c'est un des grands créateurs des puces ARM.
Et puis ils veulent se séparer d'Intel à terme, hein, donc
tout à fait,
ça aurait du sens.
Mais sauf que ça impliquerait en fait un nouveau business pour Apple, c'est-à-dire de licencier des technologies à d'autres concurrents, et ce qui n'est pas le cœur de métier d'Apple, et qui pourrait poser quelques problèmes parfois de confidentialité, de technologie, etc. Donc c'est Nvidia qui s'est manifesté auprès de SoftBank, c'est eux qui sont allés les voir, parce que Nvidia utilise déjà dans ses cartes graphiques une licence ARM, et notamment pour ses processeurs Tegra, c'est le processeur qu'il y a dans la Nintendo Switch par exemple, et du coup SoftBank aussi avait été actionnaire de Nvidia, donc on voit qu'il y a des liens quand même entre ces trois acteurs. Et puis bien sûr Nvidia c'est une entreprise qui est très en forme dernièrement, financièrement. En début de 2019, c'est même une entreprise qui avait dépassé Intel en valorisation boursière. Aujourd'hui elle est cotée 256 milliards de dollars, c'est devenu quand même un grand nom du silicone.
Ils auraient les épaules pour acheter.
Le scénario n'est pas si absurde que ça. Voilà, Nvidia ne fait pas que des cartes graphiques, ils font des processeurs pour les voitures, c'est une grosse entreprise.
Mais alors qui va rafler la pépite ARM, Emmanuel?
Peut-être personne. Parce qu'il se trouve que Masayoshi Son, donc le fondateur de SoftBank, effectivement a la pression des marchés financiers pour ramener du cash au sein de la société. Et après l'échec WeWork, qui a été une catastrophe pour SoftBank, et de redresser un peu le cours de l'action. Alors il a eu deux bonnes nouvelles déjà en début d'année. La première, c'est la fusion entre l'opérateur Sprint et T-Mobile aux États-Unis, qui a lui rapporté plus de 20 milliards en cash, donc qui viennent de rentrer là, au mois d'avril dans les caisses de SoftBank. Donc c'est déjà pas mal. Et le deuxième truc, il est sorti d'Alibaba, dont il était actionnaire. Alibaba, donc, c'est le grand site de commerce électronique chinois. Et là, il a récupéré une dizaine de milliards de dollars en sortant d'Alibaba.
Donc il a apporté un petit peu d'oxygène quand même.
Il a déjà 32 milliards. Voilà. Il avait promis aux investisseurs de ramener 42 milliards pour acheter des actions de 42 milliards.
Il a fait quand même un sacré chemin.
Voilà, donc il lui manque 8-10 milliards. Alors, est-ce que ça vaut le coup de vendre ARM, effectivement, qui vaut bien plus que 10 milliards à Nvidia ou d'autres, ou est-ce qu'il va plutôt faire une introduction en bourse, parce que ce qu'on appelle un double track, c'est-à-dire en gros, soit on essaye de voir s'il y a des acheteurs à bon prix, soit on va directement sur les marchés financiers, ce côté, et là ça lui permettrait d'acquérir un peu de cash, tout en gardant quand même la main sur ARM, qui est quand même un actif extrêmement stratégique aujourd'hui. Quand
c'est
même,
une vraie décision technologique
exactement.
En ce moment. Oui, bien sûr.
Même moi j'ai été étonné que l'Angleterre laisse partir ARM entre les mains de SoftBank qui est japonais. Si ARM avait été français ou allemand, je ne suis pas sûr que le deal se serait fait. C'est quand même, c'est vraiment très sensible comme technologie. Donc voilà, moi je pense qu'il faut suivre ça. Et puis SoftBank est en train de reprendre des couleurs. Donc bon, est-ce qu'ils vont aller jusqu'au bout du processus? À voir.
Intéressant tout ça, et on verra bien en tout cas dans les semaines et les mois qui viennent. On va parler de 5G maintenant. Alors vous savez que l'échéance de la 5G est toujours repoussée, en théorie la 5G devrait arriver en France d'ici la fin de l'année. Avec Huawei ou sans Huawei, c'est la question que tout le monde est en train de se poser, c'est compliqué.
Oui, effectivement, comment éviter aux opérateurs français d'utiliser Huawei dans leur réseau 5G sans forcément interdire la marque pour autant en France. Donc c'est une question délicate et l'ANSSI a manifestement sa petite idée. D'après Reuters cette semaine, l'agence donc nationale de la sécurité des systèmes d'information aurait indiqué de manière assez officieuse pour l'instant aux opérateurs hexagonaux que le matériel Huawei n'aurait que des autorisations d'utilisation limitées dans le temps. C'est-à-dire que, par exemple, les opérateurs ne pourraient les utiliser que pendant 3 à 5 ans au lieu de 8 ans pour le matériel d'Ericsson ou de Nokia. Donc dans ces conditions, il devient forcément difficile de voir impossible d'amortir des investissements qui sont en général colossaux pour créer un réseau. Et donc, on préfère se tourner vers des équipementiers européens, ce qui est plus logique, puisqu'on peut les exploiter pendant plusieurs années. Donc, c'est plus ou moins un peu la technique qui a été employée en Grande-Bretagne et qui a été employée il y a quelques semaines pour pouvoir justement s'aligner sur la position américaine d'interdiction ou de bannissement, sans vraiment le dire, de Huawei dans l'univers de la 5G des pays européens.
Et avec évidemment Donald Trump derrière tout ça, hein, qui, oui. On a l'impression, tire les ficelles de toute cette histoire.
Ah, c'est pas une impression,
c'est
vrai. Puisque effectivement, on a appris, alors c'était un papier du site Politico qui expliquait qu'il y avait plusieurs responsables de la sécurité nationale américaine qui étaient venus, donc Robert O'Brien, qui est le bras droit de Trump sur toutes les histoires de sécurité nationale au niveau de Washington, qui est venu en Europe et qui a rencontré ses homologues anglais, français et allemands. Donc il y avait plusieurs sujets à l'ordre du jour, mais notamment la 5G. Et c'est vrai que quelques semaines après, on a vu l'Angleterre changer de position, ouais, sur Huawei, et puis la France aussi modifier un petit peu sa position. Le seul pays aujourd'hui qui tient tête encore aux États-Unis, c'est l'Allemagne, qui a décidé d'attendre jusqu'au mois de septembre, parce qu'en fait, Deutsche Telekom, qui est l'opérateur historique sur le marché allemand, est extrêmement dépendant de Huawei, et si on doit couper Huawei à Deutsche Telekom, c'est des investissements massifs,
oui,
que devrait faire
milliards,
Deutsche Telekom.
Peut-être même des dizaines de milliards d'euros.
Et donc l'Allemagne, donc Merkel risque d'affaiblir son champion national. Donc la question est de savoir dans quel camp va tomber à un moment donné l'Allemagne. Et puis il y a un dernier élément qui sont simplement les élections américaines du mois de novembre. Si Donald Trump perd et qu'un démocrate prend la tête de la Maison Blanche, il peut changer aussi son fusil d'épaule sur Huawei.
Alors, bien sûr. Adoucir, peut-être assouplir.
Voilà, exactement. Et surtout, essayer de se rabibocher avec l'Europe et arrêter de faire pression sur ses alliés. Donc, il peut y avoir un retournement de situation. Donc, attendons. Moi, je pense que la messe n'est pas totalement dite pour Huawei. En Angleterre, je pense que c'est le cas, c'est fini. Mais pour la France et l'Allemagne, je pense qu'il va falloir attendre d'ici la fin de l'année.
Oui, et c'est pour ça que toutes ces décisions sont tièdes, finalement. On sent qu'il y a un certain attentisme.
Il faut donner des gages aux États-Unis, mais pas trop non plus.
Et bien sûr, voilà, c'est ça. Et puis, ça pose des problèmes pour les opérateurs français, notamment SFR et Bouygues, qui dépendent aussi fortement de Huawei et qui disent, OK, nous, on veut bien démonter les installations Huawei, mais qui va payer, en fait, l'investissement du nouveau matériel.
Exactement.
Et là, il se tourne vers l'État.
Exactement, parce qu'aux États-Unis, il y avait un fonds de compensation justement pour aider les opérateurs à. Et ils aimeraient bien que, si d'aventure on les oblige à faire ça, qu'il y ait un fonds de compensation équivalent en France.
On va parler de Slack maintenant. Slack, qui est un outil très utilisé en entreprise, un outil connecté qui permet de faire plein de choses et qui porte plainte contre Microsoft et Teams.
Oui, tout à fait. C'est donc la messagerie professionnelle qui est mécontente de Microsoft. En fait, la start-up vient de déposer une plainte contre le géant américain auprès de la Commission européenne. D'après elle, Microsoft donc forcerait la main des utilisateurs de la suite Office en incluant maintenant Teams à l'intérieur,
le vieux serpent
qui est un concurrent de Slack. Voilà, on connaît la chanson, on va dire, avec Microsoft.
Les ficelles.
Donc, les Européens n'auraient pas d'autre choix que d'installer Teams en même temps que Word, Outlook et Excel. Et Slack aimerait donc que l'Union européenne force Microsoft à vendre Teams comme un produit à part de sa suite logicielle. Pour Microsoft, forcément, la plainte n'est pas justifiée, puisque d'après Microsoft, Teams propose une fonction qui est absente de Slack, qui est la conversation vidéo. Slack permet seulement de faire de la conférence téléphonique, mais pas vidéo. Donc reste à voir si la Commission va ouvrir une enquête suite à cette plainte, mais comme on sous-entendait, ça rappelle complètement l'amende qui avait été infligée par exemple à Microsoft en 2013 pour avoir imposé Internet Explorer dans Windows 7, et puis même précédemment avec Internet Explorer déjà.
L'abus de position dominante, comme on dit.
Voilà, exactement. Alors, on voit aussi que Slack, ils sont quand même assez malins, parce que du coup, ils sont tournés vers qui ? Vers Amazon. Donc en fait, ils ont noué un partenariat avec Amazon, et Amazon va pousser auprès de ses salariés, donc il y a 380 000 salariés d'Amazon dans le monde, la solution Slack pour le télétravail et la communication à distance, et puis le mettre dans AWS, donc là, à disposition directement d'entreprises tierces. Donc Slack, vous savez, c'est toujours, c'est mon ennemi, l'ennemi de mon ennemi est mon ami, donc là, en l'occurrence, L'ennemi de Microsoft, c'est Amazon, et Amazon devient l'allié de fait de Slack. Donc on voit quand même que Slack ne compte pas que sur la justice pour se démener. Il essaye directement d'avoir des liens directement avec Amazon. D'ailleurs, certains analystes pensent que ça pourrait même devenir une cible à un moment ou un autre pour Amazon.
Oui. Il pourrait racheter Slack.
Donc là aussi à voir, parce qu'il suffit qu'il y ait un mouvement comme ça pour que ça éteigne directement un procès pour abus de position dominante. Donc voilà. C'est le Lego. Hein.
Voilà, c'est ça. Et on va poursuivre avec l'actualité des smartphones de cette semaine. Écoutez, en plein mois de juillet, OnePlus a dégainé son OnePlus Nord.
Voilà, donc ça jette un coup de froid en plein mois de juillet, mais bon, c'est un smartphone qui est très intéressant parce que c'est un smartphone 5G.
Qui ne t'a pas laissé de glace.
Exactement. C'est un smartphone 5G qui est à moins de 400 euros quand même. Donc c'est une belle performance. Et c'est quand même une sorte de retour aux sources pour OnePlus qui avait fortement augmenté les prix de ses téléphones au fur et à mesure des générations. OnePlus était il y a quelques années quand même le champion de toute catégorie du rapport qualité-prix, avec des smartphones à 400-500 euros qui pouvaient se battre complètement avec, avec des smartphones très haut de gamme. Donc celui-ci pour 400 euros, il a de la 5G, un écran 6,4 pouces, une batterie de plus de 4000 mAh, un capteur photo Sony de 48 mégapixels, la charge rapide, enfin voilà, il y a vraiment tout ce qu'on attend d'un smartphone.
L'interface
à ce prix-là.
OnePlus qui est très apprécié.
L'interface
aussi.
OnePlus qui est vraiment excellente. Le seul petit bémol, c'est le processeur qui est un Snapdragon 765G. Donc c'est pas le méga haut de gamme, mais c'est quand même un très très bon processeur de chez Qualcomm. Et donc ça fait plaisir de voir justement la marque revenir sur des fondamentaux. Après s'être perdu un petit peu, le dernier OnePlus 8, il coûtait plus de 900 euros. Donc c'était quand même très loin de son état d'esprit d'origine.
Oui, OnePlus qui est un peu en difficulté, hein,
oui.
Voire même beaucoup.
Beaucoup en difficulté. Notamment... OnePlus a fermé a licencié beaucoup en Europe et on dit d'ailleurs que ce modèle-là aurait été lancé
un
a priori
peu en catastrophe,
voilà
rapidement.
Parce qu'en fait c'était un smartphone qui voulait être lancé par Carl Pei qui est le fondateur qui voulait lancer ça à côté et puis finalement l'entreprise lui a dit bon on va le faire nous grâce à OnePlus donc voilà on voit que c'est un petit peu tangent du côté de OnePlus en ce moment
mais on se rend compte que la stratégie quand on est constructeur de smartphone c'est pas facile elle était claire au début la stratégie de OnePlus.
Tout à fait.
On s'attaque aux réseaux sociaux, on propose les meilleurs rapports qualité-prix pour attirer les geeks. Et puis d'un coup, on se dit, on s'embourgeoise, on veut être dans la cour des grands, proposer des smartphones excellents, mais à des prix équivalents aux iPhone ou aux derniers Samsung. Oui. Et là, patatras, la stratégie s'effondre parce que finalement, on perd l'essence même et l'âme de la société.
Tout à fait. En plus, il y avait un côté très communautaire autour de OnePlus. Donc les fidèles de la marque ont été un petit peu déçus au fur et à mesure des années.
Et puis on se rend compte, Emmanuel, qu'il y a peut-être trop de constructeurs de smartphones aujourd'hui, non ?
Disons que la période coronavirus déjà a mis un coup de frein à tous les vendeurs de smartphones. Hein. C'est la première fois où on a vu le marché global des smartphones qui commençait à baisser. Puisque d'une part, les gens sont déjà équipés dans les pays développés. Donc c'est vrai que le marché, on arrive quasiment à un marché de saturation et de renouvellement. Donc du coup, les gens, ils veulent bien renouveler un téléphone, mais il faut que le téléphone apporte vraiment des fonctionnalités différentes. Donc c'est compliqué maintenant de se différencier avec Samsung, qui va faire des annonces aussi dans quelques semaines. Hein, je crois que c'est début août.
5 août, oui.
5 août, voilà, avec des nouveaux terminaux, des nouvelles fonctionnalités avec des écrans pliants, peut-être plus accessibles. C'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué. Le contexte conjoncturel est compliqué avec la crise post-Covid et le contexte structurel qui est de baisse d'équipement en smartphone, de maturité du marché, ça complexifie vraiment effectivement le marché. Après, il reste des relais de croissance, il reste l'Inde, il reste des grands blocs, mais c'est vrai qu'en Europe, c'est plus compliqué.
Mais ce qui est étonnant, et c'est un signe, Apple qui ne communique jamais sur les prix de ses smartphones dans les publicités. Je ne sais pas si vous avez vu les pubs qu'il y a en ce moment à Paris. Apple dit, c'est le premier iPhone qui est le moins cher. Enfin, il y a une notion
SE,
en fait, de tarifs que Apple n'avait jamais osé faire sur ses publicités. Apple était décorrélé en fait du prix.
Oui, exactement.
C'est du luxe, là, pour la première fois, vous avez une pub officielle Apple qui communique sur le prix d'un téléphone, ce qui est quand même incroyable et qui est révélateur quand même. D'un marché qui commence à devenir un petit peu plus compliqué.
Ouais, exactement, tu as totalement raison, parce qu'effectivement c'est un marché de luxe, normalement Apple, donc le prix, c'est en gros, on achète le luxe, donc on s'en fiche du prix.
Oui, c'est comme si Louis Vuitton disait,
je vous fais un foulard un peu moins cher,
tiens, allez-y, ça nous fait
vous allez être étonné.
Vous allez être étonné. Non, mais on plaisante là-dessus, mais c'est intéressant.
Tout à fait, très révélateur.
On va terminer par le bel article qu'a commis Emmanuel Paquette que vous pouvez lire dans l'Express. On va parler de cinéma, le cinéma français qui n'arrive pas à faire payer Facebook et les sites porno.
Oui. Alors en fait, effectivement, alors il faut savoir qu'il y a une nouvelle taxe qui a été créée en 2018-2019. On appelle ça la taxe sur les services de vidéo. Donc au départ, c'était les services de vidéo payants, Netflix et compagnie qui devaient le payer. Puis ça s'est élargi aux sites gratuits vivant de la publicité. Donc YouTube, Dailymotion, et tous ont payé cette taxe en 2019. Donc ça représentait à peu près 34 millions d'euros pour le cinéma français.
Donc ça va dans la cagnotte du cinéma, pour créer,
exactement.
Ce qui est plutôt positif.
Ça, c'est plutôt positif. Alors, ça dépend de quel côté on se place. Du côté du cinéma, c'est très positif.
Du côté de YouTube, voilà. Enfin, cela dit, 34 millions d'euros, ça ne doit pas être très, très, très élevé comme taxe.
Non, mais ça a tendance à beaucoup augmenter parce que c'était une taxe de 2% du chiffre d'affaires. Et là, il est passé à 5,15.
Ah oui.
Donc, ça va forcément au moins doubler pour l'année 2020. Et puis, dans cette assiette, normalement, ce qu'aimerait le CNC, c'est qu'il y ait Snapchat dedans, qu'il y ait TikTok. Qu'il y ait Facebook, puisque c'est des services qui vivent de la vidéo. Alors, Facebook dit bah non, nous, la vidéo, ce n'est pas primordial. C'est pas
notre business model.
Voilà, exactement. Le CNC a un autre point de vue en disant que non, Mark Zuckerberg a dit plusieurs fois que la vidéo c'était l'avenir de Facebook, donc c'est compliqué de tenir un double discours.
Il y a Instagram aussi.
Instagram, exactement. Snapchat, eux, ils me disent on n'est pas concerné, alors que c'est quand même un service de vidéo. Oui. Et ils créent même des originals ou des shows, donc compliqué. Et TikTok, eux, ils m'ont pas répondu du tout pour le coup, en me disant voilà.
On comprend pas le français. Voilà, le chinois, nous, les gars, excusez-nous.
Et les derniers acteurs qui auraient dû payer, c'est les sites pornographiques de vidéos. Oui. Donc ça, il y a des grands acteurs que vous connaissez ou pas d'ailleurs, mais en l'occurrence, les acteurs français ont payé. Donc dont Jacky Michel, Marc Dorcel, ils ont tous payé, mais pas les acteurs.
Ce qui est bien avec Jacky Michel, c'est comme ils sont deux, ils se partagent.
Oui, vois, exactement.
Ça coûte un petit peu moins cher.
Et alors eux, la taxe, elle était de 10% sur le chiffre d'affaires, elle est passée à 15%. Donc eux doivent payer beaucoup. Et d'ailleurs, ils s'en plaignent, ils se disent mais pourquoi nous 15 et les sites comme YouTube 5. Il y a déjà une différence de traitement. Ouais. C'est pas normal, surtout que nous, on ne demande pas d'aide au CNC pour produire ce qu'on fait, mais on devrait peut-être d'ailleurs. Donc ils sont en train d'y réfléchir. Donc on verra, ils vont peut-être déposer des dossiers de financement pour des futurs films.
Les aides du CNC qui arrivent chez Jacky Michel, alors là franchement, ça serait surprenant quand même.
Hein, ouais, ils m'ont dit qu'ils y réfléchissaient.
Si ils ont amélioré le scénario, on sait pas.
Peut-être, peut-être l'éclairage, peut-être la technique. Merci beaucoup Emmanuel Paquette.
Merci à vous.
Journaliste à l'Express et merci à Jean-Sébastien Zanqui. Passez de bonnes vacances.
Merci
tous les
beaucoup.
Deux.
Passez de bonnes vacances aussi.
Voilà, et puis on se retrouvera toute fin août pour la reprise de Quoi Je Me Mêle. Et d'ici là, écoutez, bonnes vacances à vous toutes et à vous tous. Vous restez là. De Quoi Je Me Mêle n'est pas terminé. On va s'intéresser à une pépite française de la santé connectée, WeSings. Et je reçois Mathieu Letombe, son directeur général, dans un instant. A tout de suite.
RMC 01 TV, François Sorel, De Quoi Je Me Mêle.
L'actu des nouvelles techno, c'est De Quoi Je Me Mêle, le dimanche matin à la radio sur RMC, et puis vous le savez, sur 01 TV, sur la chaîne, sur les box, Freebox, mais aussi les box Orange, les box SFR et sur Fransat aussi, et puis sur Dailymotion, sur YouTube et sur 01nettv.com. On va parler maintenant de santé connectée avec la pépite française de la santé connectée. Je suis très heureux d'accueillir Mathieu Letombe, bonjour.
Bonjour François.
Vous êtes le directeur général de WeSings. Alors WeSings, certains d'entre vous connaissent, peut-être certains d'entre vous ne connaissent pas ou un peu moins. Et bien justement, on va se faire une petite piqûre de rappel de, je le disais, je le répète, une vraie pépite française de la santé connectée qui rayonne bien au-delà de notre pays. Hein. WeSings aujourd'hui a des ambitions internationales et vos produits, on les retrouve un petit peu partout dans le monde. Et voilà, il faut être fier aussi d'avoir cette belle boîte française. Mathieu, alors juste un mot sur votre parcours à vous, parce que WeSings c'est aussi une aventure humaine intéressante pour vous. WeSings a été créé par Eric Carrel, Cédric Hutchins et puis Fred Potter il y a quelques années de ça.
En 2009.
Vous êtes arrivé en 2011.
C'est ça.
Vous avez 32 ans aujourd'hui. Hein.
Exactement.
Et en 2011, donc, vous étiez pas très vieux, on va dire. Vous êtes arrivé agent de support et vous, aujourd'hui, donc 9 ans plus tard, vous êtes directeur général de WeSings. C'est fou.
C'est un parcours incroyable. C'est un parcours intéressant. Je pense que c'est aussi ce que permet l'environnement start-up, surtout quand on a des dirigeants qui font confiance aux gens et qui leur donnent des responsabilités. Donc voilà, je suis arrivé, on était une petite quinzaine, aujourd'hui on est 250, on a un bureau aux États-Unis, un bureau à Hong Kong. Donc voilà, et je suis pas le seul dans l'aventure.
Non, vous êtes un peu emblématique parce qu'aujourd'hui vous la dirigez cette boîte.
Il y a plein de personnes qui ont pu grandir et on a toujours favorisé le recrutement plutôt de jeunes sortis d'école qui ont plein de choses à apprendre et une expertise à créer et les faire monter en compétences. Donc ça fait aussi partie de notre culture.
En plus, WeSings a vécu des tempêtes et des trous d'air incroyables. Hein. En 2016, vous vous faites racheter par Nokia. Ça devient Nokia Health.
C'est ça.
C'est ça. Donc, On était tous très tristes de voir WeSings disparaître, d'être englouti par Nokia. Et puis 2 ans plus tard, Eric Carrel, le fondateur, rachète en fait Nokia Health à Nokia, parce que Nokia s'est rendu compte que ils avaient fait une connerie, une bêtise, en rachetant WeSings. Et donc recrée WeSings en quelque sorte, qui redevient en fait la pépite française qu'on connaît aujourd'hui, c'est ça ?
C'est à peu près ça. Je ne sais pas s'ils avaient fait une erreur, Nokia, mais en tout cas, effectivement, ce qu'on faisait était très loin de leur business cœur, la 5G, des réseaux, etc. Donc Eric rachète il y a 2 ans, pour 2 raisons, je pense. L'équipe en laquelle il croit, qu'il a créé, et qui n'a pas forcément beaucoup bougé pendant l'ère Nokia. Et deuxièmement, le changement dans la santé qu'il avait anticipé 5 ans auparavant, qui est les objets connectés seront au cœur de la santé de demain, aussi bien pour les hôpitaux que pour les assureurs, pour les groupes pharmaceutiques dans leurs études cliniques, pour faire du suivi à la maison des personnes. Ce changement-là qu'il avait anticipé, et d'ailleurs qu'il avait plutôt anticipé en Europe, est arrivé aux États-Unis. Il y a à peu près 2 ans, il y a plein d'initiatives, que ce soit portées par le gouvernement ou par des industriels, qui poussent la santé connectée à la maison. Et donc il a aussi racheté Apple, pour ça, parce que Apple est en plein dedans. Mais Apple, c'est qu'un petit exemple quand on s'intéresse vraiment au marché de la santé américain. Où, je le rappelle, il y a à peu près 150 millions d'Américains qui ont une maladie chronique, donc c'est juste énorme.
Donc, le diabète,
l'hypertension, l'obésité, l'apnée du sommeil. Et donc il a vu que ça arrivait, et il s'était dit que c'était le bon moment et que WeSings était à la bonne place, après ses 10 ans d'expérience. Sur un marché plutôt consumer, où on achète nos produits chez Apple, sur Amazon, Fnac, Darty et Boulanger, qu'il y avait aussi une place pour les professionnels pour utiliser nos produits. Et donc il a racheté pour ça, il a racheté aussi pour l'équipe, et depuis 2 ans on travaille ardemment à arriver à cet objectif. Et donc maintenant on ne sort plus que des produits médicaux, on n'est plus dans le bien-être, on est vraiment dans la santé, et on s'adresse dorénavant aussi à des professionnels de santé, principalement aux États-Unis où ce monde change.
Oui, bien sûr, avec ce pivot B2B qui est important, l'objectif c'est de... Alors je ne sais pas si vous allez abandonner le grand public,
non, jamais.
Mais c'est d'avoir de mener les deux... sur les deux fronts, on va
exactement
dire.
En fait ce dont on s'est rendu compte, et les acteurs de la santé s'en sont rendus compte aussi, c'est qu'à la fin on s'occupe d'une personne, que ce soit un patient ou un acheteur, c'est une personne.
Bien sûr.
Et en fait notre B2B c'est du B2B2C, et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui ils nous choisissent et qu'ils viennent vers nous, c'est que notre expérience en B2C elle leur permet à eux de motiver leurs patients avec des objets qu'ils ont envie d'utiliser, qui sont utilisés sur le long terme, parce qu'ils sont beaux, parce qu'ils ont des durées de vie de batterie longues, parce qu'ils ont des bonnes connectivités. Et donc aujourd'hui toute cette force qu'on a créée en B2C, elle est ultra importante en B2B, et il est hors de question pour nous de lâcher le B2C, déjà parce que c'est ce qu'on aime faire aussi, c'est voir des gens porter nos produits, mais aussi parce que ce qu'on apprend avec nos utilisateurs serve aux patients de demain, et cette expérience-là, elle est très importante, il ne faut absolument pas la perdre.
Juste un mot, l'hôpital et tout le système de santé français est complètement déconnecté justement des objets connectés, c'est un peu triste. Espérons justement que ce grand plan
de digitalisation
permette justement d'ajouter les objets connectés, pour qu'on comprenne bien, en fait, si on arrive à avoir un suivi de notre santé ou de certains indicateurs de notre santé, on peut prévenir de nombreuses maladies, vivre plus longtemps et coûter moins cher, en fait.
Oui.
À la société,
on est
d'accord.
C'est exactement ça. Il y a la prévention. On sait que l'obésité est un peu un facteur de risque sur toutes les maladies chroniques comme l'hypertension, l'apnée du sommeil, le diabète. Donc c'est prévenir, mais c'est aussi mieux supporter les gens qui ont une maladie chronique. Il y a vraiment 2 choses. C'est-à-dire qu'un hypertendu, il faut aussi qu'il soit suivi, il faut qu'il soit motivé à prendre ses médicaments. Sinon, il y a 30% des gens qui sont hypertendus qui ne prennent pas leurs médicaments.
Ce qui est énorme.
Un diabétique, c'est pareil, il doit être accompagné. Il doit être suivi. Et donc en fait, ce qu'on voit, et principalement aux États-Unis, c'est des programmes de prévention, mais aussi des programmes d'accompagnement, parce qu'il est hors de question d'abandonner les gens qui ont déjà une maladie chronique, et on peut aussi les aider en les motivant, en leur montrant leur succès via des données. Et donc on a aussi ce rôle-là d'accompagnement, même quand la maladie existe déjà.
La technologie fait des progrès incroyables avec des capteurs, mais surtout, on s'en rend compte aujourd'hui avec des algorithmes. C'est ça qui est étonnant, c'est qu'en fait, la puissance de calcul permet de détecter, en fait, grâce, et vous allez mieux l'expliquer que moi, grâce à certains capteurs, à certaines données vitales qu'on va remonter, eh bien on arrive
à faire bien plus qu'à
avoir la fréquence cardiaque, en
bien
fait.
Sûr.
C'est ça ?
On a un très bon exemple, on a un capteur de sommeil qu'on met sous le matelas. qui au tout début mesurait les cycles de sommeil. Donc sommeil profond, sommeil léger, etc. On est passé
donc
de
on
ça.
On met sous le matelas.
On met sous le matelas.
On l'oublie.
On l'oublie complètement.
D'accord.
C'est un des produits qui est le plus utilisé parce qu'en fait, il n'y a rien à faire.
C'est là la clé justement de l'objet connecté.
Et ça fait partie de notre ADN qui est d'être le moins invasif possible, puisque comme ça, on booste un peu l'utilisation. Et donc, on est passé de ces cycles de sommeil-là, mesurer le rythme cardiaque en continu, mesurer le rythme respiratoire en continu pendant le sommeil. Et après un an à peu près de travail sur les algorithmes que vous décrivez, on a été capable de détecter l'apnée du sommeil sans changer le produit.
Simplement le mettant à jour.
Exactement. Alors, ça demande énormément de calculs. Et au début, ces calculs, ils sont faits sur une plateforme, dans le cloud, puisqu'ils demandent énormément de puissance. Mmh. Et une fois que le travail est fait, on arrive à l'embarquer directement dans le produit pour que le produit soit autonome et puisse remonter ses données. Et donc, on passe d'un produit qui était plutôt bien-être sur comment je dors, est-ce que je ronfle, etc., à vraiment un produit médical qui nécessite un marquage spécifique, le seuil médical, pour lequel on a été audité, pour lequel on a dû montrer une étude clinique qui montre les performances de notre produit par rapport à ce qui est utilisé par les experts du sommeil. Et donc, on a réussi à faire ça. Et donc, c'est entre autres ce qu'on va continuer à faire, aller plus profond dans les données médicales qu'on est capable de mesurer, et aussi se servir de l'ensemble des données médicales qu'on regroupe pour trouver des nouveaux biomarqueurs qui pourraient être des facteurs de risque cardiovasculaire en fonction de plein de types de données. Et donc, on peut aller beaucoup plus loin. Et ça va servir à la fois nos utilisateurs B2C, comme on l'a fait avec l'apnée du sommeil, mais ça servira aussi forcément aux hôpitaux, aux programmes de santé. Il y a quelque chose aux États-Unis qui existe assez peu en France. Ils appellent ça des healthcare programs, donc c'est des programmes de santé. C'est des entreprises privées qui, globalement, vont voir les assureurs et vont leur dire on peut s'occuper de ta population à risque pour le diabète. On va les coacher, on va leur expliquer ce que c'est que le diabète, on va leur faire perdre du poids, on va leur faire augmenter l'activité.
Et ça va te faire économiser.
On va changer leur routine. Et globalement, on va sauver la vie d'une personne et vous allez avoir un retour sur investissement. Et ces programmes-là, ils explosent aux États-Unis parce qu'ils ont bien compris que gérer du prédiabète ou gérer un hypertendu tous les 6 mois dans un cabinet médical, ça marche pas très bien pour la motivation, pour l'encouragement, pour le suivi. Donc ils le prennent. Et pour cela, ils ont besoin d'objets connectés. Et c'est ça qui est assez incroyable, c'est que ce marché, il est en pleine expansion. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on investit aux États-Unis et sur ce marché-là. Et qu'on notre place de numéro 1, parce qu'on est quand même numéro 1 dans la balance connectée dans le monde. Ça, c'est assez
intéressant. C'était votre premier produit, C'était révolutionnaire à l'époque. Hein.
C'était
une balance qui était connectée au Wi-Fi de la maison.
C'est presque un peu fou, je pense.
Ouais, voilà.
Et voir aujourd'hui,
son poids
maintenant,
sur l'appli.
Maintenant, c'est utilisé par des hôpitaux, c'est utilisé par des programmes de santé. Il y a de plus en plus de médecins qui nous écrivent en disant j'ai eu un patient qui a pris son électrocardiogramme avec votre montre. Heureusement, on a pu détecter qu'il avait de la fibrillation auriculaire. Je lui ai donné des anticoagulants, etc. Enfin, on est passé de « vous avez amélioré ma vie » à « vous m'avez sauvé la vie ».
Vous m'avez sauvé la vie.
Et ça, c'est quand même super plaisant quand on travaille dans une entreprise de se dire qu'on travaille pour ça, quoi.
Et en plus, Mathieu, on en est au tout début de cette histoire-là.
Ouais,
c'est-à-dire que là, c'est presque les balbutiements. J'imagine que vous découvrez plein de choses.
Tous les jours.
Tous les jours, c'est ça qui est fou. Et puis, après, il y a, on va dire, la période qui était un peu particulière avec ce Covid. J'imagine que vous avez dû suivre tout ça avec beaucoup d'intérêt. Et est-ce que ça vous a donné envie peut-être de créer de nouveaux produits, cette période, cette épidémie, ou peut-être de, je sais pas moi, d'avoir une posture différente sur certaines nouveautés ou certains travaux?
Donc déjà, ça a été une période assez compliquée, hein, même en tant que dirigeant. C'est tout le monde en télétravail du jour au lendemain.
Oui,
avec,
oui.
Et quand on fait des produits, c'est assez compliqué. Mais on a vraiment une équipe qui est restée soudée. Et qui,
oui,
je
parce
pense,
que vous étiez en train de développer la ScanWatch, dont on a parlé tout à l'heure.
Hein, et plein d'autres sujets.
Qu'on avait découvert ensemble au CES.
Donc, l'équipe a su rester ultra soudée. Et c'est probablement dû aux 10 ans et à tous les changements qu'on a vécu ensemble. Ce qu'on a vu pendant le Covid. On n'a rien vraiment découvert, ça a juste renforcé notre idée. On a vu deux tendances. Les utilisateurs, clients qui achètent nos produits à la FNAC, chez Darty, etc. Je pense qu'il y a eu une prise de conscience. On a vu nos ventes augmenter de 50% par rapport à l'année dernière.
Incroyable. Donc en fait, cette période de Covid a été positive pour vous?
J'aime pas utiliser le mot non, positif mais... parce qu'on est quand même dans une crise, etc.
Mais en tout cas, elle a vraiment renforcé
ce qu'on avait anticipé. Et en fait, on le voit dans les médias, il y a eu beaucoup de si vous êtes hypertendu, si vous êtes diabétique, vous êtes à risque pour le Covid. Et je pense que ça a vraiment créer une prise de conscience auprès des utilisateurs. On le voit en France, en Allemagne, aux États-Unis, et même après le déconfinement, on voit que cette tendance continue. Donc je pense qu'il y a déjà une vraie prise de conscience de la part du public sur ces maladies chroniques qu'il faut savoir mesurer et dont on peut être le propre acteur. On n'a pas besoin de passer par un médecin nécessairement pour pouvoir le suivre.
Et rappelons que, comme vous le disiez, le Covid en fait, se développait beaucoup plus vite sur des personnes qui étaient hypertendues, qui avaient du diabète, etc.
Elles étaient plus à risque.
Et voilà.
Et de l'autre côté, sur la partie B2B, on a bien évidemment vu exploser les demandes de suivi à distance, de télémédecine, de tout ça qui nécessite des produits connectés. On a eu aussi pas mal de demandes d'hôpitaux. Et l'ANSM, d'ailleurs, nous a donné une autorisation, une dérogation pour pouvoir donner des ScanWatch sans avoir la certification médicale qu'on n'avait pas à l'époque et qu'on a maintenant.
Oui, qui étaient quasi des prototypes, mais en tout cas, ils n'étaient pas finalisés.
Pour le suivi du taux de saturation d'oxygène dans le sang, qui était un des critères qui était intéressant de monitorer quand quelqu'un avait des problèmes respiratoires, mais pas suffisamment sévères pour être hospitalisé. Et donc tout ça, ça nous a permis d'aider, mais surtout de confirmer l'importance que tout cela a et peut pouvoir avoir. Après, sur le développement de nouveaux produits...
Enfin, je sais pas, je vous coupe, mais la température, par exemple, c'est tout bête.
Oui.
Aucune montre ne capte la température corporelle.
Non, alors nous, on a un thermomètre connecté.
Mais qui d'accord, mais c'est un appareil spécifique, en fait, dont il faut se servir. Mm-hmm. Et vous n'êtes pas les... Enfin, les thermomètres, après, il y en a des millions à la pharmacie.
Il y a bien entendu plein de choses qui sont possibles. On parle de pression artérielle au poignet, on parle de température au poignet, on parle même de mesure de glucose au poignet. Je pense que tout cela va venir, mais je pense...
C'est-à-dire, pour qu'on comprenne bien, avec une montre, on va pouvoir capter, on va dire, des dizaines de paramètres vitaux de mon organisme.
Je pense que ce sera le cas. Par contre, aujourd'hui, la technologie, elle n'est pas encore suffisamment éprouvée, elle n'est pas encore suffisamment fiable. Ça demande, comme vous l'avez dit, des capteurs et des algorithmes très fiables. Et ça demande du temps. Mais ce qui est sûr, c'est que... Le corps, sans forcément être invasif, est à lui-même un très bon indicateur de plein de choses sur la santé, en amont de certains mêmes symptômes qu'on peut ressentir. Et donc, il y a forcément plein de choses à faire. Et je prends l'exemple de notre capteur de sommeil dont je vous ai parlé tout à l'heure. On voit quand les gens, par exemple, ont consommé de l'alcool, puisque le rythme cardiaque descend beaucoup moins vite que quand on se repose naturellement. On peut voir plein d'autres choses. Il y aura peut-être la température demain, il y aura peut-être des arythmies. Donc, il y a plein de choses à voir dans ces données, c'est vraiment là-dessus sur lequel on veut accélérer.
Mais je me focalise sur la température, parce que ça a été... Tout le monde parlait de la température pendant
notre demande de thermomètre a explosé. Clair.
Mais est-ce que demain, on peut imaginer une montre connectée avec prise de température? Techniquement, c'est possible ou pas? Ça marche?
Je pense que techniquement, c'est aujourd'hui très dur. On n'est pas à l'abri que ça fonctionne demain, mais je pense qu'on tend vers cela.
Et pourquoi? Parce que le fait de... Ça ne suffit pas d'avoir un...
En fait, on ne peut pas prendre la peau. Déjà, on ne peut pas prendre la température n'importe où. Il y a quand même des endroits où aujourd'hui, il est recommandé de prendre sa température de manière rectale, de manière frontale, sous l'aisselle ou sous la
langue. Quand on voit... Enfin, vous êtes rentré dans nos locaux, il y a une espèce de détecteur de température automatique, vous passez devant et ça vous dit si vous êtes bon ou pas, vert ou rouge.
Oui, mais de là à l'embarquer dans une petite montre, c'est quand même encore différent. Mais donc je pense qu'on y viendra. Et encore une fois, il ne faut pas aller trop vite parce qu'il faut quand même garder la crédibilité médicale qui est nécessaire. Et donc il ne faut pas aller trop vite. Je pense qu'il y a une différence.
Ce sont des cycles de développement beaucoup plus longs,
bien sûr. Et surtout sur de l'innovation. Faire quelque chose qui existe déjà, refaire un tensiomètre et changer un écran, ça va assez vite. Apporter un nouveau biomarqueur médical, ça prend un an et demi, et ça peut prendre plus longtemps.
Et après, il faut la validation.
Exactement, et donc vaut mieux, enfin, tout est possible, mais vaut mieux quelque chose qui fonctionne qu'arriver trop tôt sur le marché avec quelque chose qui ne fonctionne pas très bien.
Alors, parlez-nous de cette ScanWatch, justement, qui a été testée pendant cette période de Covid. Elle s'apprête à sortir, là, elle va arriver à la rentrée.
Donc, elle sort en septembre et on fait un pré-lancement la semaine prochaine.
Oui.
Donc, petite information exclusive pour commencer à en vendre à nos premiers utilisateurs les plus fidèles.
Qui la trouveront où? Donc,
la trouveront
à partir
sur notre site web, sur wissings.com.
Donc, dès la semaine prochaine, je pourrai l'acheter si
exactement.
Je veux. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, cette montre? Parce que les montres, c'est pas la première que vous faites.
Non. Bah, donc, elle suit un peu ce changement médical qu'on a décidé. décidé d'entreprendre il y a deux ans, on a pris tout ce qu'on savait faire de mieux dans nos montres, donc une montre connectée qui suit l'activité, qui suit les pas, et encore une fois on veut passer du wellness aussi à la santé, et donc ça, c'est la montre connectée la plus avancée au monde en termes de capteurs de santé. Donc on a bien entendu le rythme cardiaque, on est capable de prendre un électrocardiogramme directement au poignet, on a un capteur, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, de SPO2, donc de taux d'oxygène dans le sang, qui permet qui est très utile pour certaines maladies ou certains sportifs.
L'apnée du sommeil, justement.
L'apnée du sommeil qui va découler de ce capteur-là.
Expliquez-nous, c'est-à-dire que en fait, ça va détecter le taux d'oxygène que j'ai dans le sang.
Exactement.
Et donc, quand je fais une apnée du sommeil,
vous arrêtez de respirer.
Donc j'ai moins d'oxygène dans le sang.
Exactement.
Et la montre va le détecter.
Exactement. Et en fait, on est capable de voir le nombre d'épisodes apnéiques que vous avez par heure, donc le nombre de fois où vous arrêtez de respirer. Et en fait, passé certains seuils, vous devenez apnéique modéré, apnéique sévère. C'est une maladie qui est sous-diagnostiquée, alors qu'elle a une prévalence incroyable.
Et parce que personne ne s'en rend compte.
C'est dur de s'en rendre compte. Et en fait, le chemin de diagnostic actuel, c'est vous allez voir votre médecin traitant. Si jamais vous décrivez les bons symptômes, vous allez voir un expert du sommeil.
Il faut que le médecin y pense.
Exactement. Et après, vous avez un test en hôpital bardé de capteurs.
Voilà. C'est-à-dire que, en fait, votre montre remplace, on va dire, un examen, alors qui sera peut-être plus fiable, je ne sais pas. Hein, mais je suis obligé.
Qui viendra peut-être en confirmation de ce que nous avons vu.
Où je suis obligé d'installer toute une batterie de capteurs et de dormir, c'est ça, avec ce type d'équipement.
Et non seulement c'est moins invasif, mais nous on a des données sur la durée.
Bien sûr.
Donc on voit des évolutions. Un test de sommeil, vous n'allez pas le faire pendant 25 jours chez vous. Nous, on a 30 jours de durée de vie de batterie, ce qui nous permet d'avoir un engagement, une rétention super forte sur nos produits. Et donc, on va pouvoir voir des tendances. Encore une fois, nous, on croit profondément que la tendance, elle est plus importante que le chiffre. Parce qu'en fait, la tendance, elle vous montre des progrès ou elle vous montre que vous allez dans le mauvais sens. Et elle est plus importante que le chiffre qui vous met dans une case malade, pas malade, qui est un peu le problème de la santé aujourd'hui.
Alors ça c'est vraiment une grosse fonctionnalité qui arrive. Vous n'êtes pas les premiers, je crois, à faire un bracelet qui détecte l'apnée du sommeil. Je crois que ça existait. J'avais vu une petite boîte française qui avait sorti quelque chose un peu en catimini il y a quelques années. Mais est-ce que c'est vraiment fiable?
Oui, c'est bien. Il y a des études cliniques qui sont faites en face.
Et alors, vous avez un chiffre à nous donner? Est-ce que c'est à 99%?
Alors, je ne l'ai pas en tête. C'est des chiffres qu'on publie sur notre site web parce que c'est quelque chose d'important pour nous. Mais globalement, on est très proche de, voire meilleur que certaines technologies qui sont utilisées aujourd'hui par des hôpitaux. Et encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que nous, on a plusieurs nuits de données. Et donc, en fait, il vaut mieux parfois avoir plusieurs nuits de données
qui
sont 2% moins, 2% moins fiables qu'un examen. Encore une fois, bardé de capteurs où de base, vous allez quand même beaucoup moins bien dormir que normalement. Vaut mieux avoir 2% de fiabilité en moins, mais avoir tout un panel de données de nuit qui va vous permettre de confirmer l'apnée du sommeil sur plusieurs nuits et sur le long terme. Donc c'est très intéressant.
Donc, cette ScanWatch ECG, donc l'électrocardiogramme, la détection donc, du taux d'oxygène dans le sang et l'apnée du sommeil. Exactement. Qu'est-ce qu'elle fait d'autre? Elle donne l'heure ou pas quand même?
Elle donne l'heure, elle donne la date, elle donne pas mal de choses. Vous pouvez courir avec. On a un mode avec un GPS lié au
téléphone. Il n'y a pas de notification, par
exemple. Suivi, vous avez aussi les notifications.
D'accord. Donc quel type de notification?
Toutes les notifications de votre smartphone. Donc,
d'accord.
En fait, il n'y a pas. Si vous avez une application WhatsApp, Facebook, ce que vous voulez, vous l'aurez. On s'arrête là parce qu'en fait, on ne veut pas aller. On ne veut pas devenir non plus une smartwatch profonde avec des applications comme ça peut être le cas dans d'autres smartwatches. On tient notre durée de vie de batterie, on tient l'expérience utilisateur qui sont nous. Pour nous, clé pour justement l'engagement de nos utilisateurs,
c'est-à-dire
mais par contre, aller plus profondément dans la santé, ça nous intéresse.
Vous n'êtes pas véritablement concurrent de l'Apple Watch,
non,
par exemple.
Non, je pense pas. Je pense que c'est deux marchés différents. Ils ont une super montre qui permet d'écouter de la musique, de commander un Uber, etc. Nous, ce sera jamais le cas parce qu'on veut pas devenir une smartwatch.
Le problème de l'Apple Watch, c'est que l'autonomie est de 24-48 heures et que pour évaluer notre apnée du sommeil ou des paramètres justement que l'on peut avoir quand on dort, c'est compliqué, quoi. Parce que si on la garde la nuit, on peut pas la recharger la nuit.
Exactement. Et encore une fois, quand quelqu'un est malade ou quand quelqu'un essaye de prévenir une maladie, c'est important de lui enlever toute friction possible. Et en fait, le rechargement, c'est un frein à l'adoption. Et donc c'est pour ça que nous, on a toujours eu cet intérêt pour la durée de vie de la batterie qui doit être la plus longue possible, qui était un peu assez clé dans notre business aujourd'hui, et en B2B devient super important parce que ils n'ont pas envie de perdre des gens liés à l'utilisation d'un produit connecté. Nous, on arrive même à booster les taux d'engagement de certains programmes qu'on rejoint grâce à l'utilisation de nos produits, parce que les gens aiment utiliser nos produits. Je crois qu'en moyenne, un utilisateur de balance, il se pèse 180 fois par an sur une balance, donc tous les deux jours. C'est juste énorme. Ouais, en fait, on voit qu'on est rentré dans la vie des gens, dans leur routine, et que c'est devenu important pour eux.
Dernière question. On se rend compte que, évidemment, non seulement vous allez prévenir des maladies, vous allez peut-être éviter les gens à aller à l'hôpital, vous allez à terme faire des économies à notre système, on va dire, de social. Oui. Est-ce qu'on peut imaginer demain que, comme j'achète sous ordonnance tel ou tel médicament qui est remboursé, une partie de cette montre pourrait être remboursée parce que justement je m'en sers et parce que elle va faire du bien à ma santé ?
La réponse est clairement oui. C'est le cas aux États-Unis. Il y a des programmes qui remboursent des objets connectés.
Donc c'est quoi cas, c'est des mutuelles
c'est le cas aux, c'est couvert par la mutuelle. Il y a des programmes sur des maladies chroniques où ça fait partie du programme de donner un objet connecté et en fait nos objets connectés ils ont un prix mais ils sont très rentables par rapport à leur impact sur quelqu'un.
Mais bien sûr et on arrive à déjà chiffrer la rentabilité en fait. On parle argent, mais c'est le nerf de la guerre hein, malgré
bien
tout.
Sûr. Hein, c'est comme ça qu'on
voilà,
qu'on,
c'est ça.
Ça avance. Mais aux États-Unis, des programmes de pré-diabète pour éviter que quelqu'un soit diabétique, ils peuvent faire des économies. Ils peuvent diviser par 10 la facture annuelle d'un diabétique aux États-Unis parce qu'il ne le sera pas, parce que l'assureur n'aura pas à payer l'insuline et tous les coûts qui sont autour.
Pourquoi on est en retard ? On est autant en retard en France ?
Après, on a aussi moins de problèmes de santé. Hein. Les chiffres sont meilleurs. Mais je pense que ça viendra et je pense qu'il y a une partie du plan qui sera dédiée à la digitalisation des hôpitaux et donc probablement de l'intégration des objets connectés dans cet environnement. Mais c'est sûr qu'on y viendra.
Demain, mon généraliste pourrait me prédire une montre WeSings ?
Je pense que ce sera le cas. Il y aura des prescriptions de tensiomètres connectés.
C'est dingue ça.
C'est super intéressant.
Alors que votre montre n'est pas tensiomètre. Hein.
Non.
Elle donne. C'est un appareil spécifique.
Oui, on a deux tensiomètres.
Voilà, c'est ça. On peut imaginer un tensiomètre dans une montre ?
On peut imaginer tout dans une montre, François.
Mais c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Je veux dire par là, c'est que le tensiomètre, c'est un appareil spécifique.
Oui.
Je veux dire, le thermomètre, c'est un appareil spécifique. Il faut aller dans le tiroir.
Avant, il y avait un électrocardiogramme qui était un appareil spécifique. Ouais, ouais. Il est rentré dans une montre. Je pense que. Un peu comme ce qu'a fait Apple avec l'iPhone, on peut tout rentrer dans un produit.
La montre est le meilleur objet à votre avis pour capter en fait la...
Il est toujours sur soi donc il est intéressant. Après tout le monde ne porte pas de montre, je crois que c'est votre cas. Moi le produit que j'apprécie le plus chez nous c'est justement ce capteur sous le matelas parce qu'en fait il reste... On a 8 heures de données sur vous,
qui est
globalement plus que le temps par an que vous passez chez un médecin.
Et on pourra avoir autant de données que sur une montre avec un capteur sous le matelas ?
On va y travailler en tout cas. On voit déjà le rythme cardiaque, donc il y a forcément des choses à voir dedans.
Ouais.
Et le rythme respiratoire qui est devenu quelque chose d'important, surtout pendant le Covid. Donc il y a plein de choses à faire. Suivez un peu notre actualité sur la prochaine année.
Tout ça est passionnant et c'est français, c'est ça qui est génial et on ne le dira jamais assez. Mathieu, merci beaucoup.
Merci François.
Rappelons que vous êtes directeur général de WeSings et cette montre, donc la ScanWatch qui arrive là dans les jours qui viennent.
C'est ça.
Si vous voulez, pourquoi pas vous y intéresser. Ce de quoi je me mets à terminer, merci de nous avoir suivis, merci à vous de nous être fidèles. Passez de bonnes vacances, on va s'arrêter quelques semaines pour revenir toute fin août. D'ici là, profitez bien et à très vite.
De quoi je me mail sur RMC et 01 TV.